Bienvenue sur Canada Ouvre-toi, le podcast qui vous aide à mieux comprendre le système d'immigration du Canada. Vous avez comme projet de venir au Canada ou vous y êtes déjà et souhaitez y rester? Vous êtes donc au bon endroit. Je suis Laurence Mouilla-Vertueux, consultante réglementée en immigration canadienne et commissaire aux affidavits en Ontario. Mon objectif est de vous mener vers la clé qui vous ouvrira l'une des multitudes portes du Canada. Alors maintenant, plongeons-nous dans l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Canada Ouvre-toi. Alors aujourd'hui, c'était censé être la partie numéro 2 de Vie ma vie au Canada avec Nadia. Comme je vous l'avais promis, on était censé parler de la manière dont elle a obtenu ses papiers d'immigration ainsi que sa carrière professionnelle, la vie professionnelle au Canada. Donc l'interview a été faite, sauf qu'il se trouve qu'au moment de l'enregistrement, il y a eu un gros bug et tout a été supprimé. Donc vous pouvez imaginer ma frustration parce que du coup tout est à refaire et en fait l'enregistrement dure seulement les 10 minutes. J'ai seulement les 10 dernières minutes de l'interview. Donc du coup je vais devoir recommencer avec Nadia. Donc je vous dois un épisode par rapport à ça. Mais aujourd'hui on va du coup parler d'un autre sujet. Il se trouve que le mois de mars au Canada, c'est le mois de la prévention de la fraude. Et donc du coup, je voulais en profiter vraiment pour vous parler, pour vous donner les conseils, les meilleurs conseils pour prévenir la fraude à l'immigration. Parce que voilà, pour beaucoup, le Canada est vu comme un Eldorado. Certaines personnes, en fonction du pays où elles habitent, c'est vraiment important pour elles de partir pour avoir une vie meilleure. Certains ont besoin de partir parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc, du coup, ça laisse la porte ouverte à certaines personnes malhonnêtes qui, du coup, prennent avantage de la naïveté ou de désespoir ou du besoin, justement, de toutes ces personnes qui veulent venir au Canada. Et de plus en plus, malheureusement, on voit de la fraude à l'immigration avec des conséquences, mais vraiment, vraiment désastreuse. Et je peux vous dire que j'en ai entendu des histoires de personnes qui se sont fait arnaquer par ces personnes malhonnêtes qui se disent être des agents d'immigration, des avocats en immigration, alors qu'en fait, elles sont même pas autorisées. Et du coup, ce qu'elles font, c'est qu'elles promettent monts et merveilles, elles prennent toutes les économies de la personne et puis au final, rien n'est fait ou encore pire, quelque chose est fait, c'est-à-dire qu'elle monte des dossiers en mettant n'importe quoi à l'intérieur. Et au final, ça porte préjudice à cette personne qui a donné sa confiance. Donc voilà, donc c'est quelque chose que je veux vraiment vous prévenir parce que ça existe quel que soit le pays, à n'importe quel niveau. Et donc du coup, voilà, je voulais vous donner vraiment 20 conseils pour pouvoir se protéger, se prémunir de cela. Donc, s'il vous plaît, écoutez bien chaque conseil, mettez-les en application si jamais vous avez des doutes. C'est vraiment vérifié. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, d'abord, je vais parler au niveau de tout ce qui est diplôme. Qu'est-ce qu'on appelle une personne autorisée ? Déjà, il faut savoir que pour pouvoir faire ces démarches d'immigration, il n'y a aucune obligation à engager un représentant autorisé. Mais si jamais vous décidez de le faire, il faut savoir qu'il y a seulement 3 types de personnes qui sont autorisées à être payées. Ça veut dire que si vous voulez, vous pouvez avoir des amis, de la famille qui peuvent vous aider à remplir vos formulaires, mais ça doit être fait gratuitement. À partir du moment où vous donnez un avantage monétaire ou sous toute autre forme, il faut que cette personne soit autorisée. Sinon, vous êtes dans l'illégalité. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que les trois types de personnes qui sont autorisées par le gouvernement du Canada à vous fournir des conseils ou des services en immigration ou en citoyenneté canadienne, compte rémunération ou tout autre avantage, ce sont soit les titulaires de permis en règle du collège, donc notamment les consultants réglementés en immigration canadienne comme moi-même, Soit il faut que cette personne soit membre d'un barreau du Canada, donc notamment les avocats, par exemple un avocat en Ontario ou un avocat en Colombie-Britannique, ou soit cette personne doit être membre de la Chambre des notaires du Québec. Donc ça veut dire que si une personne n'est ni un avocat, ni un notaire, ni un consultant réglementé en immigration canadienne, elle ne peut pas vous aider, elle ne peut pas vous fournir des conseils. Donc c'est pas seulement juste vous représenter, c'est juste vous donner des conseils. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas payer quelqu'un, même pour une consultation ou pour un workshop ou pour un webinaire, si elle ne fait pas partie de ces trois catégories, de personnes. Et dans ce cas-là, si ce n'est pas ça, bah c'est ce qu'on appelle des praticiens non autorisés, ou on appelle ça des consultants fantômes. La liste est longue. L'autre chose aussi à faire attention, c'est que des fois, certaines personnes vont vous dire « Oh, moi, j'ai le diplôme, j'ai suivi un programme d'études en immigration. » Ça ne veut pas dire qu'une personne, elle est autorisée à fournir des conseils en immigration. Parce que vous pouvez passer le diplôme, oui, vous pouvez faire vos études, mais après, en fait, il y a d'autres étapes pour pouvoir obtenir la licence. Donc, par exemple, pour être consultant réglementé, il y a l'université, une université qui donne les cours. Mais même si vous avez le diplôme à la fin, vous n'êtes pas considéré comme avocat ou comme consultant réglementé en immigration. Donc, si une personne vous dit qu'elle a suivi les cours ou qu'elle a le diplôme, il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas derrière de vérifier si elle a la licence. Donc, si c'est une personne qui dit qu'elle est consultant réglementé en immigration canadienne, bah dans ce cas-là, rendez-vous sur le registre public du collège. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Rendez-vous sur le registre public du collège et puis effectuez une recherche. Vous pouvez effectuer une recherche par le prénom, le nom de famille, le nom de l'entreprise, là où la personne se situe. Et puis, du coup, vous verrez. Voilà. Soit la personne, elle est consultante réglementée en immigration canadienne, ou soit elle est consultante réglementée pour tout ce qui est suivi au niveau des études. Donc, voilà. Déjà, c'était les deux premiers conseils par rapport aux titres officiels. Ensuite, les autres types de conseils que je voulais vous demander, c'est par rapport à tout ce qui est administratif. Normalement, quand vous demandez à une personne de vous représenter, assurez-vous bien que vous signez un contrat de service professionnel. À partir du moment où vous payez quelqu'un, vous devez signer un contrat. Ce contrat, concrètement, vous devez en avoir une copie, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la personne qui vend sans copie. Ne donnez pas votre argent sans avoir rien sur papier. Le contrat, il doit comporter votre signature, celle du consultant. Par défaut, je veux dire consultant ou représentant autorisé, mais voilà, il doit avoir vos deux signatures. Vous devez tous les deux en avoir une copie. Et concrètement, ce contrat, il doit détailler concrètement quels sont les services que cette personne va vous fournir. Donc moi, par exemple, quand je fais un contrat avec une personne que j'accompagne, elle sait si, par exemple, imaginons, c'est pour Entrée Express, elle sait qu'en termes de service, je vais l'orienter vers l'option la plus appropriée à son profil et à son projet. Elle sait que je vais lui créer son profil Entrée Express, que je vais lui créer une liste personnalisée de documents, ce genre de choses. Donc, assurez-vous que dans le contrat, il y a tout ça, que si il y a le descriptif du paiement, combien vous allez payer. L'autre chose aussi à faire très, très attention, c'est que si jamais le processus de plainte, si vous êtes insatisfait avec le service, où vous allez vous plaindre, tout ça doit apparaître dans le contrat. C'est vraiment très important. L'autre chose aussi qu'il faut signer, c'est le formulaire IMM 5476. Donc en fait, ça c'est le formulaire recours au service d'un représentant. Et en fait, il indique au gouvernement canadien que votre consultant ou votre avocat ou votre notaire est autorisé à vous représenter dans votre dossier d'immigration. Ce formulaire, il doit être signé par tous les deux. Et en fait, il doit être envoyé en même temps que votre demande. Et donc, du coup, ça va donner l'autorisation à votre représentant de vous représenter du coup, et il aura accès à vos fichiers. Et donc du coup, si jamais il doit contacter IRCC, donc qui est Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, eh ben il en aura le droit. Et pareil, si jamais vous décidez de ne pas payer et de passer par exemple par un ami ou un membre de votre famille qui va vous aider gratuitement, vous devez tous les deux signer ce formulaire-là aussi. Vous verrez dans le formulaire, on va vous demander est-ce que ce représentant est rémunéré ou pas. Et bien là, du coup, vous devez indiquer si c'est un membre de la famille. Donc, c'est vraiment, vraiment important de faire ça. L'autre chose aussi, c'est que les faux consultants, des fois, ils vont vous faire signer des formulaires sans que le formulaire soit rempli. Donc ça, c'est un gros non. Avant de signer un formulaire, c'est de votre responsabilité de tout lire et de vous assurer que les informations qui apparaissent sont véridiques. Donc du coup, faites attention parce que des fois, il y a des formulaires qui sont incomplets ou falsifiés. Si c'est incomplet, votre demande peut être retournée. Si c'est falsifié, ça peut être considéré comme de la fausse déclaration et la fausse déclaration est passible d'un bannissement de 5 ans au Canada. Donc faites très attention. Conseil numéro 7. Oui, c'est vrai que je n'ai pas numéroté les autres conseils. Conseil numéro 7, obtenez une copie de tous les formulaires que vous avez signés. Donc, de manière générale, une fois que le dossier est envoyé, ou même c'est important d'avoir une copie juste pour vous, en fait, pour que vous ayez une idée de tout ce qui a été soumis dans le dossier. Donc moi, en général, c'est ce que je fais avec les personnes que j'accompagne, notamment vu le système que j'utilise. Par exemple, j'utilise Adobe. Donc du coup, ça envoie automatiquement une copie aux personnes que j'accompagne. Alors maintenant, on va passer tout ce qui est paiement. Si jamais vous payez cette personne en espèces, il faut penser au long terme, c'est comment après vous allez prouver plus tard que vous avez bel et bien payé cette personne. Donc si jamais vous payez en espèces, demandez bien un reçu ou une facture qui montre que le paiement a bien été pris en compte. Mais c'est pour ça, voilà, de manière générale, essayez tant que vous pouvez à payer en virement bancaire, en carte de crédit ou en chèque. Bon, je sais que de moins en moins, on fait le chèque. Après, je sais que pour plusieurs personnes, c'est pas toujours évident, voilà, de faire un chèque, carte de crédit et virement bancaire, notamment en fonction du pays où vous habitez. Moi, je sais que les clients que j'accompagne, si elles n'ont pas de carte de crédit, j'accepte Western Union. Mais au moins, il y a une trace écrite qui montre que l'argent a bien été envoyé. Mais surtout, voilà, surtout pour vous, gardez une trace écrite du paiement. Et puis, c'est pour ça aussi, en conseil numéro 9, comme je disais, c'est que par rapport au montant que vous avez payé, déjà, le montant doit vraiment apparaître dans votre contrat. Et en plus de ça, à chaque fois que vous effectuez un paiement, demandez une facture avec le reçu. Parce que c'est bien beau d'avoir une facture qui dit « vous devez payer tant », mais il faut aussi recevoir le reçu qui dit que « oui, vous avez payé tel montant ». Au niveau du contrat, conseil numéro 10, au niveau du contrat de service professionnel, ça ne doit concerner seulement l'immigration. Donc, c'est-à-dire que si jamais vous payez des services autres que ceux en immigration, par exemple que la personne veut aussi vous aider à du placement professionnel, ça doit faire l'objet d'un contrat distinct. Donc, tout ce qui a trait à l'immigration doit seulement apparaître sur un contrat. Tout ce qui a trait avec service de recrutement ou de placement professionnel, ça doit apparaître sur un autre contrat. Et si jamais votre représentant autorisé vous offre les services d'immigration pro bono, donc c'est-à-dire gratuitement, ça doit aussi apparaître sur le contrat que le service est pro bono. Mais en tout cas, sur le contrat de service, c'est vraiment très important que tout soit détaillé, en fait. Et l'autre chose aussi que je voulais spécifier par rapport au service de recrutement ou de placement professionnel, si jamais vous tombez sur un consultant qui est aussi recruteur, par exemple en Alberta, et ben du coup, c'est aussi de votre responsabilité, en plus de s'assurer que c'est un consultant réglementé en immigration canadienne, il faut aussi s'assurer que ça soit un recruteur en Alberta. Parce que les recruteurs, c'est la licence, elle est donnée par province. Donc, si jamais elle dit qu'elle est recruteur en Colombie-Britannique, il faut aussi s'assurer. Parce que c'est deux ordres différents et deux accréditations différentes. Donc, je vous conseille vraiment de vérifier ça. De vérifier ça pour les deux métiers. Ensuite, l'autre chose, donc mon conseil numéro 11, c'est de prendre garde si jamais vous avez un agent de voyage ou des agents d'éducation ou des recruteurs d'étudiants ou des recruteurs d'emploi tout court vous offrent des services d'immigration. Par exemple, des fois, vous allez voir des agents de voyage qui vont vous offrir de l'aide avec votre visa de visiteur. Ou des fois, vous avez un recruteur qui peut vous offrir de préparer votre demande de permis de travail. Ou on va même voir des recruteurs d'étudiants qui vont vous dire qu'ils vont soumettre votre demande de permis d'études en même temps que votre demande d'admission à un établissement d'enseignement. Il faut savoir que la plupart de ces personnes, elles ne sont pas autorisées à vous offrir des services d'immigration canadienne. Parce que comme je l'ai dit, il faut qu'elle soit avocat, soit notaire ou soit titulaire du permis du collège. Donc si jamais vous passez par ce genre de service, assurez-vous bien que la personne soit qualifiée, soit accréditée. C'est vraiment important parce que sinon, là aussi, vous passerez par un praticien non autorisé. C'est pour ça, par exemple, que ma collaboratrice Sandrine, elle est spécialisée dans de Soleil Immigration, elle est spécialisée dans tout ce qui est emploi, mais ce n'est pas elle qui va vous conseiller sur les options d'immigration. Donc, c'est pour ça, si vous voyez bien, que nos services sont distincts et que vous avez affaire à l'une et l'autre. C'est ce genre de choses qui doit être fait. Donc, concrètement, là, par rapport aux deux derniers conseils, c'est assurez-vous que si la personne vous propose deux services différents, assurez-vous qu'elle ait son accréditation dans les deux domaines. C'est vraiment, vraiment important. Après, en termes de garantie. Alors ça, c'est un gros sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que personne, je me répète, personne ne peut garantir le délai de traitement précis d'une demande. C'est-à-dire que quel que soit le type de demande en matière d'immigration, personne ne peut garantir le délai. Donc oui, sur le site internet d'IRCC, vous pouvez vérifier les délais de traitement, mais ça, c'est seulement une moyenne. C'est une moyenne qu'on vous donne qui est basée sur les derniers mois, mais votre dossier peut prendre plus ou moins de temps à être traité. Donc voilà, donc concrètement, si vous tombez sur quelqu'un qui vous promet « Ne t'inquiète pas, en une semaine, tu peux avoir ton visa pour le Canada, c'est garanti. » Drapeau rouge. Parce que personne ne peut savoir combien de temps ça va prendre. Donc, comme je vous ai dit, les données sur le site d'IRCC n'en sont qu'une moyenne, mais ce n'est pas la réponse finale. Ensuite, personne ne peut garantir un emploi et l'immigration au Canada en même temps. Donc, c'est vrai que l'emploi et l'immigration, au Canada, c'est souvent lié. Mais comme je l'ai dit, déjà, ça a recours à des représentants différents. Donc, du coup, pareil, si quelqu'un vous promet pour un tarif unique, on va trouver un emploi et on va obtenir tes documents d'immigration, drapeau rouge. Parce que déjà, de un, personne ne doit vous facturer des frais pour l'obtention d'un emploi. C'est-à-dire ni l'employeur, ni le recruteur, ni le consultant en immigration. Ça, c'est interdit par la loi. Vous pouvez néanmoins payer quelqu'un qui va vous préparer à la recherche d'emploi, mais quelqu'un ne peut pas vous dire « Écoute, j'ai un job pour toi à Tim Hortons en tant que chef d'équipe, tu me payes 1 500 $ et tu peux signer le contrat de travail. » Ça, c'est totalement interdit et malheureusement, c'est des choses qu'on voit de plus en plus, ce genre de trafic. Donc, s'il vous plaît, Vous pouvez payer quelqu'un pour vous accompagner à la recherche d'emploi, refaire son CV, comment choisir les bonnes offres d'emploi, comment se préparer à un entretien. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais personne n'a le droit de vous dire « Je t'ai trouvé un emploi, j'ai trouvé un emploi qui correspond à tes compétences et en échange, tu me passes 2 000 $ et tu signes le contrat drapeau, drapeau, drapeau rouge. » Voilà, donc voilà pour le point numéro 13. Ensuite, le point numéro 14, je vais me répéter encore. Personne ne peut garantir l'approbation de votre demande. Donc ça veut dire, encore une fois, les promesses alléchantes que l'on voit passer qui disent « Je vous promets que si vous passez par moi, vous aurez une réponse à 100%, vous aurez une réponse positive à 100%, ou vous avez 100% de chance d'obtenir votre résidence permanente si vous passez par moi, bip, drapeau rouge. » Parce qu'en fait, la seule personne qui, à la fin, prend la décision, c'est l'agent des visas, en fait, qui va se prononcer sur votre demande. Donc, oui, vous pouvez faire à moi ou à d'autres consultants ou d'autres représentants autorisés, mais c'est interdit par la loi de vous promettre un 100% d'approbation. Ça, gardez-le bien, c'est interdit par la loi que quelqu'un vous promette un 100% d'approbation. C'est vrai que quand on investit dans un accompagnement ou dans un service de représentation légale, c'est sûr que vous vous dites tout le temps « Oh là là, je mets de l'argent, j'espère que ça sera garanti à 100%. » Malheureusement, moi, je ne vous dirai jamais « Oui, si vous passez par moi, vous allez avoir un 100% de garantie. » En revanche, moi, ce que je peux vous promettre, c'est que je vais faire un 100% pour montrer votre dossier de manière authentique, fidèle et de qualité. Ça, oui, je garantis la qualité de mon travail. Mais la réponse finale, malheureusement, c'est l'agent d'immigration à la fin. Vous savez, vous pouvez même recevoir une lettre d'approbation qui vous dit votre demande est approuvée, voilà votre lettre d'introduction et rendez-vous à la frontière pour obtenir votre permis d'études ou votre permis de travail. Mais si vous arrivez à la frontière et que l'agent d'immigration il a encore des doutes sur la véracité des documents, et ben du coup, il a le droit de vous refuser en fait. Donc c'est pour ça que je dis, personne ne peut garantir l'approbation de votre demande parce que la personne qui prend la décision finale, c'est l'agent d'immigration. Donc, tant que vous n'aurez pas votre permis d'études en main, tant que vous n'aurez pas votre visa de visiteur en main, tant que vous n'aurez pas votre permis de travail en main, tant que vous n'aurez pas votre confirmation de résidence permanente signée par l'agent qui vous dit « oui, vous êtes résident du permanent », personne ne connaît le résultat de votre demande. Et ça, je veux vraiment, mais vraiment appuyer dessus. Parce que là aussi, même sur les réseaux sociaux, je vois passer des publicités, mais c'est comme si les gens gagnaient au loto. Enfin, c'est dur en fait de voir parce que je sais que voilà, c'est donner des faux espoirs aux personnes. Et le pire dans tout ça, c'est que beaucoup de personnes tombent dans le panneau parce qu'elles ne savent pas, parce qu'elles veulent absolument investir dans quelque chose qui va fonctionner. Mais le plus souvent, ce qui arrive, c'est que ce genre de personnes, des fois qui sont malhonnêtes, c'est que voilà, elles vous promettent, elles vous prennent l'argent, et puis au final, soit rien n'est envoyé, ou soit c'est envoyé et c'est complètement bâclé. Et oui, vous pouvez entendre la frustration dans ma voix, parce que je peux vous dire que ces dernières semaines, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues vers moi. En me disant, écoutez, je me suis fait arnaquer. J'ai donné un ami d'un ami m'a dit qu'il pouvait m'aider avec ma demande. Je lui ai donné 300 $. On s'est rencontrés, je lui ai donné 300 $. Je n'ai pas signé de contrat. Et cette personne n'a plus jamais répondu à son appel. Je ne l'ai plus revu. Donc, voilà. Donc, faites, s'il vous plaît, juste faites attention. alors, 15e conseil, c'est que personne, je vous promets, c'est mon dernier personne, mais personne ne peut influencer le résultat de votre demande d'immigration. C'est-à-dire qu'une personne autorisée, un représentant autorisé, ne peut pas, ou les faux consultants, ne peut pas vous dire « Ah, moi, parce que je suis avocat, je peux changer le cours des choses. Je connais quelqu'un dans le milieu et du coup, ils vont approuver votre dossier ou j'ai un ami à IRCC. » Ça, non. Ça, c'est drapeau rouge encore. Parce que comme je l'ai dit, la personne qui prend la décision finale, c'est l'agent d'immigration. Ce n'est pas moi. Donc oui, j'ai mon accréditation, mais ce n'est pas moi qui vais payer un coup au bar du coin à l'agent d'immigration pour qu'il approuve votre demande à la fin de la journée. Donc pareil, faites attention si quelqu'un vous fait des belles promesses en disant « T'inquiète, moi je connais quelqu'un à l'intérieur du système, je vais lui dire ton numéro de dossier et c'est sûr ton dossier il va passer en haut de la pile, il va avoir un traitement plus rapide, tu vas passer. » Drapeau rouge, la gros drapeau rouge. Voilà. Donc, faites attention à ça. Conseil numéro 16. Alors, des fois, des personnes vont vous dire que oui, elles sont consultantes réglementées en immigration canadienne. Mais comme je vous dis, c'est un métier réglementé. C'est-à-dire que de la même manière qu'on peut obtenir sa licence, on peut aussi la retirer. Donc, si jamais ce consultant est passé devant un conseil disciplinaire, et ben du coup, il peut voir son statut révoqué ou suspendu pendant un moment. Parce que voilà, par exemple, c'est pas forcément que la personne a fait des mauvaises choses. Hein. Ça peut être juste, par exemple, qu'elle n'a pas suivi ses cours obligatoires. Parce qu'il se trouve qu'en tant que consultant réglementé en immigration canadienne, chaque année, pour être sûr qu'on soit à jour au niveau des règles d'immigration, parce que, comme je le répète toujours, ça change beaucoup. En fait, on doit suivre un certain nombre d'heures de formation continue. Et donc, du coup, si on ne le fait pas, ou si on ne paye pas notre licence, on peut voir notre statut suspendu. Donc du coup, ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez voir en ligne. Pareil, vous regardez dans le registre du public du collège, le registre public du collège, et vous vérifiez, il faut que le statut soit actif. Donc que ça soit pour les consultants réglementés en immigration canadienne ou pour les conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers. Conseil 17. Alors, pareil, en termes de réglementation, on a un logo. Quand on est consultant réglementé en immigration, on a un logo que seules les personnes qui ont la licence, qui ont le permis, ont le droit d'utiliser. Donc, vous pourrez aller vérifier sur ma page. Moi, j'ai le logo qui dit que je suis CRIC CISR, donc qui dit CRI. IC-CISR, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois niveaux de titulaires du permis du collège. Donc, il y a ceux qui sont conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers. Il y a les consultants réglementés en immigration canadienne, donc ça, c'est CRIC, CRIC. Et ensuite, il y a le troisième niveau le plus haut, c'est CRIC-CISR. Donc ça, c'est pour ceux qui sont autorisés à représenter les clients auprès de la commission du statut de l'immigration et des réfugiés, c'est ce que j'ai. Donc voilà, donc il y a trois types de logos qui peuvent apparaître, mais voilà, c'est seulement les personnes qui sont autorisées qui ont le droit de l'utiliser, et normalement ça apparaît sur notre page web. Alors, autre chose aussi que je voulais dire, c'est que il faut savoir que tous les consultants réglementés en immigration canadienne ont souscrit en fait à une assurance responsabilité professionnelle. Ceux qui sont pour les étudiants étrangers, eux, ils sont couverts par l'assurance responsabilité professionnelle de leur employeur. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà, c'est juste pour vous rassurer que oui, je suis couverte par une assurance responsabilité professionnelle. Notamment pour erreurs et omissions. Et puis, autre chose aussi, conseil 19, c'est que les CRIC, donc les conseillers réglementés en immigration canadienne, Voilà, on doit normalement vous conseiller de manière compétente et éthique. C'est-à-dire que on va pas aller, comment dire, enjoliver la situation. Si je sais que vous n'êtes pas éligible à un programme, je vais pas vous donner de l'espoir. Je vais pas non plus aller vous faire signer un contrat si je sais que vous n'êtes pas éligible. Ça ne fait vraiment aucun sens. C'est pour ça d'ailleurs que je conseille toujours, enfin c'est pas je conseille, c'est je, avant de signer un contrat de service professionnel, je vous demanderai toujours de prendre une consultation initiale avec moi parce que du coup, ça me permet de connaître un peu votre profil et donc du coup de savoir pour quelle option vous êtes éligible. Donc si par exemple vous venez vers moi en disant « oui, j'ai envie de participer à Entrée Express » alors que vous n'avez pas de l'expérience professionnelle qualifiée, je ne vais pas aller vous faire signer un contrat en disant « ok, d'accord, faisons Entrée Express et je vais vous prendre votre argent alors que je sais très bien que vous n'êtes pas éligible ». Donc ça aussi, c'est pour ça que je dis l'éthique, c'est très important, c'est vraiment très important. Et du coup, ça m'amène à mon 20e et dernier point en parlant d'éthique, c'est que s'il vous plaît, ne mentez pas ou ne faites pas de fausses déclarations dans votre demande d'immigration. Parce que ça, c'est fatal. Comme je vous ai dit, si vous êtes coupable de fausses déclarations, vous allez être interdit de présenter une demande d'immigration au Canada pendant 5 ans. Et en plus, ça va figurer dans votre dossier d'immigration. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous voudrez faire une demande d'immigration, il y aura noté, même vous allez devoir le déclarer parce que dans un des formulaires, on vous dit « Avez-vous déjà été refusé une demande ? Avez-vous été déjà interdit de territoire ?» Évidemment, j'espère que vous n'allez pas rementir à nouveau. Il faudra mettre « Oui ». Donner des explications. Et de toute façon, même si vous mettez « Non », le gouvernement, il le sait. Le gouvernement, c'est tout, Big Brother. Mais voilà, c'est pour vous dire, ne mentez pas. Ne mentez pas, même si vous avez un casier judiciaire, vaut mieux le mettre plutôt que de mentir. Si vous avez des enfants d'une ancienne relation et même si vous vous en occupez pas, déclarez que vous avez des enfants. Ne cachez pas ça. Si vous êtes resté, vous êtes déjà venu au Canada, que vous étiez autorisé à rester seulement 6 mois en visiteur et que vous êtes resté 6 mois et 2 semaines, notez-le aussi. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment important. Et le rapport avec la fraude, c'est que des fois, des personnes mal intentionnées vont vous pousser à mentir en vous disant « ça va vous faire un meilleur dossier ». Mais au final, ça peut se retourner contre vous. Donc, c'est un peu aussi la mentalité canadienne, c'est qu'on vous fait confiance. Mais si vous avez essayé d'entourlouper le système et qu'on vous attrape, là, ça fait mal. Donc, s'il vous plaît, vaut mieux dénoncer les choses plutôt que de les cacher. Parce que oui, omission égale aussi fausse déclaration. Il n'y a pas de « ah, j'ai oublié, c'est pas ma faute ». Non, 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 non. Vous êtes quand même responsable. Omission, mensonge, fausse déclaration, passible de 5 ans d'interdiction de territoire. On ne va pas chercher plus loin. 5 ans d'interdiction de territoire au Canada. Et je peux vous dire que ça peut être très long selon la situation où vous êtes. Parce qu'il y a des personnes, elles ont commencé à construire leur vie au Canada. Elles sont peut-être en couple, elles ont peut-être des enfants. Et là, pour des petites choses comme ça, elles se font bannir. Ou sinon, il y en a d'autres qui laissent cette personne qui n'est pas autorisée à remplir les formulaires à la place parce qu'elles ont signé le formulaire en avance sans que le formulaire soit rempli. Elles ont laissé cette personne remplir le formulaire. La personne a tout soumis sans même leur montrer avant de soumettre. Et ben c'est la catastrophe en fait. Donc, je me répéterai jamais assez, s'il vous plaît, faites attention. Vraiment, 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 faites attention. Parce que même si vous êtes passé par quelqu'un de non autorisé, au final, c'est vous qui êtes responsable. Donc, ça veut dire que vous allez payer en pensant que c'était sûr que vous allez obtenir un 100% d'approbation. Et au final... Ok, vous avez peut-être payé 500 dollars, 1000 dollars de moins, Mais au final, vous vous retrouvez avec une interdiction de Canada pendant 5 ans. Et encore, je dis, vous avez payé moins. Mais si vous entendez les histoires que certains clients me rapportent, qui vont aller payer un 15 000 $ pour quelque chose qui est faux, ça, c'est... En fait, j'ai même plus les mots pour toutes les fraudes que j'entends. Et je trouve ça tellement, tellement malheureux de profiter, en fait, du besoin, des gens dans le besoin, de la naïveté ou du désespoir. Mais malheureusement, voilà, on essaye de faire changer les choses à notre échelle. Donc, c'est pour ça vraiment que je tenais à faire ce podcast. Et je remercie aussi le collège des consultants en immigration et en citoyenneté, parce que eux aussi, de leur côté, c'est eux qui ont fait cette campagne et qui ont aussi mis en place ces 20 meilleurs conseils. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager cette information autour de vous, parce que oui, n'importe qui peut être victime. N'importe qui peut être victime de la fraude à l'immigration. Et donc, du coup, je vous conseille vraiment de réécouter ces conseils avant de signer un contrat avec quelqu'un. Ou avant, si vous n'aviez même pas pensé à signer de contrat, avant de donner votre argent à quelqu'un. Donc voilà, prenez vraiment bien soin de vous. Je partagerai d'autres conseils sûrement sur Instagram par rapport à la fraude à l'immigration. Peut-être des histoires, je pense, des histoires de personnes qui se sont fait arnaquer à leur dépôt. Et donc voilà, donc on en a fini sur le sujet de prévenir la fraude à l'immigration au Canada. Concernant l'épisode numéro 2 de Vie ma vie au Canada avec Nadia, je vous tiendrai au courant de sa publication. Donc pour ne rien rater, dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute de choix, ou sinon suivez-moi sur Instagram, je suis assez active, donc du coup je vous mettrai à jour concernant ça, c'est Mouvla Immigration. Et l'autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que je compte organiser un webinaire avant la fin du mois. Donc voilà, si vous comptez venir vous installer au Canada en dehors du Québec, que ça soit solo, en couple ou en famille, n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mettrai toutes les informations. Donc ça sera tout pour moi de mon côté. Je vous souhaite vraiment une agréable journée et on se retrouve au prochain épisode. Bye bye.